France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique.
Le cinéma des cinéastes. Alain René par Michel Simon en 1980. Le cinéaste Alain René parle du rôle du hasard et de la nécessité dans son existence. Il décrit sa vocation de cinéaste, les origines de cette vocation, les incertitudes de la jeunesse, l'influence de la famille, l'attirance première pour le théâtre, l'entrée à l'IDEC dans la première promotion en montage. Le travail artistique s'est présenté à Alain René comme la seule issue, dit-il, à la maladie. Maladie dont nous ne saurons rien. Pour Alain René, le cinéma et l'art en général sont toujours une fuite dans l'imaginaire. En 1980, on donnait au cinéma son film « Mon oncle d'Amérique ».
Ce ne sont plus ceux qui cultivent les beaux-arts. Ce ne sont pas ceux qui s'occupent de l'art, art poétique ou bien musique. Les artistes sont les acteurs, les actrices.
Si nous étions des artistes, nous ne dirions pas le cinéma, nous dirions le ciné.
Mais si nous étions de vieux professeurs de province, nous ne dirions ni ciné ni cinéma, mais cinématographe.
Aussi, mon Dieu, faut-il avoir du goût.
Alain René, nous ne disposons que de 50 minutes pour revoir mentalement l'ensemble de vos films. Alors, je vous propose d'envisager un peu notre entretien sous un angle qui est celui du hasard et de la nécessité, mais enfin en prenant le hasard objectif, qui je crois vous est cher, et la nécessité historique. Et pour commencer le hasard objectif, j'ai très envie, je sais à quel point vous êtes attaché au surréalisme, et j'ai très envie de vous demander comment vous avez rencontré le surréalisme, et à travers quel texte, et à travers quelle personne éventuellement, et à travers quelles œuvres.
Je l'ai rencontré, comme tout le monde, j'allais dire, par les livres, quoi. En effet, quand j'avais 14-15 ans, en faisant les quais, tout simplement, je suis tombé un peu sur les livres de Breton, sur les livres d'Aragon, de Soupeau. Ça a pu tenir aussi, oui, un hasard, c'est que un petit marchand de livres de l'avenue de Châtillon avait hérité de toute la bibliothèque de aux enfants. Et donc tous les livres d'aux enfants étaient soldés à des prix, en effet, défiant toute concurrence. Et alors tous les deux jours, bon, comme ça, j'en achetais un. Et j'ai commencé à me familiariser, en effet, avec Éluard, Aragon, Soupeau, Zara, Cocteau, même. Oui, je sais que Cocteau ne fait pas partie du surréalisme, mais il est certain que des livres comme le Potomac me paraissent de toute manière s'y rattacher par leur sensibilité. Donc de la manière la plus simple, et c'était une littérature en effet que je ne soupçonnais pas du tout et qui a été, oui, un grand choc dans mon existence littéraire. Oui. C'est arrivé, que, je crois, à tout le monde comme ça, quoi, oui. Mais non, je n'ai jamais rencontré d'écrivain surréaliste ou de peintre surréaliste, non. Alors évidemment, chacun de ces livres menait à autre chose, c'est ça, mais... Breton menait à la peinture de Max Ernst, qui menait aussi aux pièces de Ribemont de Seigne. Enfin bon, tout à coup, je découvrais qu'il y avait une forme d'art qui était très éloignée de celle que, petit provincial, j'avais rencontrée ou soupçonnée lorsque j'étais en Bretagne. Donc une grande impression tout à coup de liberté.
Finalement, je pense que le surréalisme est peut-être mal connu. Mais enfin, dans le surréalisme, il y a un certain nombre d'axes qui sont d'un côté, enfin, pour les premières années, certainement dans l'héritage de Dada, la révolte. Mais très vite, aux alentours de 26, et à travers Breton, qui lui-même avait une formation médicale, on l'oublie souvent, l'idée du voyage de Breton chez Freud et ce souci foncier, puisqu'il s'inscrit dans le premier manifeste, du fonctionnement réel de la pensée. Or, il semble bien que ce fonctionnement réel de la pensée n'a jamais cessé, de vous hanter, en tout cas de vous intéresser certainement très fort.
Oui, mais peut-être d'une manière inconsciente, justement. C'était certainement pas prémédité, ou c'était pas... Je me suis jamais réveillé le matin en me disant « Ah, je vais faire un film ou m'occuper de cinéma en fonction de tel ou tel critère ». Non, ça se passe d'une manière beaucoup plus hasardeuse, justement. D'ailleurs, je ne dis pas, il faut pas que j'ai fait un seul film qui soit surréaliste. Je dis simplement que... J'essaie, quand je travaille, une fois que le sujet, évidemment, est donné, de respecter certaines images qui viennent dans le travail, qui persistent, et que j'essaie d'incorporer au film sans pouvoir, généralement, les justifier par un raisonnement logique. Ça s'arrête là, bien sûr.
Et d'une façon générale, est-ce que vous faites une part à l'automatisme, enfin, dans votre travail, enfin...
Dans le découpage, la mise en scène et le montage... Oui, certainement, parce que qu'est-ce qui peut vous pousser à changer de plan, à changer de cadre à tel moment plutôt qu'à tel autre, sinon des espèces d'automatismes, quoi, que j'essaie de respecter. En effet, j'essaie pas de dominer tout ça, j'essaie au contraire de laisser le film lui-même dominer toute la mise en scène, en fin de compte. Alors ça, c'est quelque chose qui est très difficile à analyser, oui.
Alors bon, maintenant, prenons le deuxième axe, qui est celui de la nécessité historique. Il y a un étrange divorce qui apparaît à travers tous vos entretiens avec des journalistes, c'est que du point de vue, disons, des historiens du cinéma et des historiens tout court, l'œuvre d'Alain René a, disons, une logique impérieuse qui épouse dans les années 50 un certain nombre de thèmes qui vous font apparaître, et c'est moi-même d'ailleurs qui l'ai dit, je vois pourquoi je me renierai devant vous, pour savoir comme la conscience historique des années 50, et puis comme celle avec Muriel, le film le plus juste, non seulement sur la guerre d'Algérie, mais sur une certaine période, sur un certain état mental correspondant à l'année même et aux années dans lesquelles il a été tourné. Et puis, Mon oncle d'Amérique aujourd'hui, qui, étrangement, semble précéder, encore une fois, son temps, dans la mesure où c'est un objet complètement unique et singulier en son temps. La question n'est pas, au fond, de savoir qui a tort ou qui a raison, c'est-à-dire que quand on vous voit du dehors, vous voyez vous du dedans. L'important, c'est de préciser, simplement. C'est, bon, d'abord, votre vocation. Alors, nécessité, hasard, vous vouliez être comédien, d'après ce qu'on sait.
Oui, ma vocation, elle est très simple, en effet. Ma famille me destinait à la carrière de pharmacien, ce qui était bien normal puisque mon père était pharmacien et que mon grand-père était pharmacien. L'hypothèse pharmacie a été écartée d'office, si je puis dire. Et je me destinais, je crois, à la librairie, ce qui me faisait assez peur aussi. Mais d'un autre côté, j'avais un peu l'exemple de José Corti, chez qui j'achetais quelquefois justement des livres. Et je me disais, si je peux devenir un espèce de libraire-éditeur comme José Corti, bah peut-être que c'est une vie assez supportable.
Oui, non, mais ça, on est tous passés devant sa librairie.
Et puis, bon, bah, j'ai, comme tout le monde, enfin, qu'est-ce qu'il n'a pas quand il a 18 ans, il n'a pas envie de faire du théâtre, quoi. Bon, bah, j'étais très frappé par le Cartel, par Jouvet, Batty, Copeau, Dulin. J'avais envie, évidemment, de pénétrer dans ce monde. Bon, ben, je suis pas sûr d'avoir eu envie d'être comédien en tant que comédien pur, quoi. J'ai l'impression que ce qui me plaisait, c'était surtout de participer à l'atmosphère des coulisses, à l'odeur des décors, enfin, et que c'est ça qui me captivait le plus, quoi. Puis l'idée de pouvoir monter peut-être des textes qui m'intéressaient. Bon, à cette époque-là, il y avait Pirandello, il y avait tout ça, il y avait tout un répertoire. Il y avait le théâtre américain de Eugene O'Neill. Il y avait des tas de choses que j'aurais voulu voir sur scène et qu'on ne montait pas encore. Et ça me motivait aussi en grande partie. Les résultats en tant que comédien ne m'ont pas intéressé. Bon, j'arrivais pas du tout à contrôler ce que je faisais. Je ne dis pas que j'étais toujours mauvais, mais c'était imprévisible. Alors ça, c'était donc pas très supportable. Et surtout, je ne savais pas sur quel bouton il fallait appuyer pour être bon et sur quel bouton j'avais oublié d'appuyer pour être mauvais. La situation n'était pas tenable et à ce moment-là, je me suis dit que j'allais repartir vers la librairie et j'allais rentrer en effet comme stagiaire à la librairie Galignani quand l'Institut des hautes études cinématographiques s'est ouvert et poussé par des amis dont la fameuse monteuse Myriam. Je me suis présenté. Bon, comme j'ai été reçu, je me suis dit qu'en devenant monteur, je suis tout de suite rentré dans la section montage, c'était une manière intéressante de rester en contact avec le milieu des comédiens et que c'était tout de même plus intéressant et plus varié que de vendre des livres de 9h du matin à 6h du soir et que j'allais essayer de m'entêter dans cette direction. Alors voilà.
Mais il y a une chose que je sais, pour en avoir parlé avec vous quelquefois, c'est à quel point vous êtes bon cinéphile, à quel point vous êtes, et même cinéphile, pas du genre exalté, mais du genre méticuleux et précis. C'est-à-dire, je sais que vous avez dû fréquenter l'avenue de Messine.
Même avant, je veux dire, la rencontre avec Langlois en 1938...
En 38 déjà.
Ah oui, a été un grand choc, ça aussi, parce que de même que j'ai découvert, donc un peu avant... qu'il y avait une autre forme de littérature que celle que je soupçonnais, quand j'ai pu découvrir, en effet, grâce aux projections chez Langlois et puis au Studio 28 aussi, qu'on pouvait faire des films non réalistes. Ça voulait dire aussi bien le cabinet du docteur Caligari que les films d'Eisenstein, que L'âge d'or ou Le chien andalou. Que tout à coup, le cinéma n'était pas là forcément pour reproduire la réalité. Là aussi, ça provoquait tout de même chez moi une grande exaltation, oui.
Avec en même temps, je crois, comme bien des cinéphiles de votre génération, une sorte d'amitié, admiration pour le cinéma feuilletonesque américain, enfin pour le cinéma d'aventure américain, enfin ce qui était destiné en principe aux Français, je pense aux vampires et à Feuillade, ce qui était destiné en principe au public le plus large, mais qui en même temps vous intéressait par autre chose, par une fantasmagorie et par un surréalisme peut-être involontaire.
Oui, mais en tout cas, extrêmement prenant, quoi. Oui, c'est vrai que la découverte des films de Feuillade m'a fait autant d'effet que la découverte du chien andalou. Et cependant, les buts de Feuillade et de Buñuel n'étaient certainement pas du même ordre. Et, curieusement, il y avait des points communs.
À travers les textes d'Aragon sur les vampires, par exemple. Enfin,
oui. Les surréalistes ne s'y sont pas trompés, qui ont trouvé dans ces films, dans les films à épisodes, une nourriture qui leur convenait très bien. Oui, je dois voir pas loin d'une centaine de films par an, ce qui est une moyenne, c'est tout. Mais j'ai des collègues qui y vont beaucoup plus, tout de même, enfin, bien sûr.
Jacques Rivette, bien entendu.
Oui, c'est le record. C'est extraordinaire, parce que Jacques Rivette va même revoir le même film 3 ou 4 fois de suite. C'est quelque chose d'extraordinaire. Oui.
Il semblerait bien que le cinéma français ait toujours été pratiqué par des cinéphiles. Vigo a créé un ciné-club, après tout, et connaissait admirablement bien les films d'Epstein, et comme s'il y avait une continuité. Est-ce que vous avez le sentiment d'être au bout d'une chaîne et de reprendre un relais? Comme s'il y avait une passion du cinéma qui se transmettait.
Oui, bien sûr, mais est-ce que c'est pas vrai pour toutes les activités artistiques? Si on fait de la peinture, c'est parce qu'on a vu de la peinture. Si on fait de la littérature, c'est parce qu'on a lu des livres. Si on fait du cinéma, c'est parce qu'on a vu des films. Moi, je ne crois pas du tout à une espèce de vocation qui ne vienne pas d'abord d'une fréquentation des œuvres. C'est évident que quand on veut faire du cinéma, c'est pour rentrer dans le monde du cinéma.
Vous, une première fois, très modestement,
je m'entends. Oui, j'ai jamais cherché à être metteur en scène. J'ai jamais eu l'idée de devenir metteur en scène. Parce que je trouvais plus de travail quand on me proposait... d'être metteur en scène d'un court-métrage, c'était évidemment d'abord plus rentable, il ne faut pas l'oublier, et puis ensuite, je n'allais pas refuser de mettre en scène un court-métrage pour dire « Non, je ne fais que du montage, ça m'était absolument égal. » J'aurais accepté aussi d'être chef opérateur, j'aurais accepté d'être chef ingénieur du son, enfin, d'être même stagiaire dans le son, si ça s'était trouver. L'essentiel pour moi était d'être dans le milieu. Du moment que ça n'était pas comédien, ça m'allait toujours.
Mais ça voulait dire que... parce que être dans le milieu, vous précisez pas. Et il me semble, moi, que vous vouliez participer, enfin, en tout cas, quand on voit vos films, d'une magie. Enfin, être à la fois dedans, dehors, je ne sais pas, enfin, comme dans vos films.
Mm-hmm. Oui, ce qui est important, c'était pour moi de... les rencontres avec des gens qui étaient de ce milieu-là. Voilà, peut-être que... parce que étant enfant, dans le milieu provincial où j'avais été élevé, bon, ben, j'avais un peu pris en grippe tous les milieux que je rencontrais. Et celui que je ne connaissais évidemment pas du tout, c'était celui du spectacle. Bon. Qu'on me dépeignait d'ailleurs comme un espèce d'enfer à tout point de vue. Et alors quand j'ai découvert que c'était absolument le contraire et que les gens dans ce milieu me paraissaient en effet beaucoup plus sympathiques, ouverts, gais, sensibles à tout, curieux de tout, ben, je n'ai eu qu'un souci, c'est je veux y rester, alors qu'est-ce que je peux faire pour y rentrer? Bon, voilà.
Là, vous mettez le doigt sur quelque chose d'important. Enfin, je voudrais vous poser la question sans... qui est la suivante, tout simplement. C'est-à-dire qu'il me semble, moi, que la vocation du spectacle en général, enfin, quelques métiers qu'on veuille pratiquer dans le spectacle, est quand même lié à une sorte de soit de peur, soit de refus de la réalité. C'est-à-dire que, est-ce que parfois la déformation professionnelle ne va pas, une fois qu'on est entré dans le milieu, jusqu'à avoir envie de, dans une soirée ou dans un dîner, de couper la plupart des dialogues parce que trop long est-ce qu'il n'y a pas une espèce de soit de peur, soit de refus de la réalité quotidienne?
Non, bien sûr que tout travail artistique est une fuite dans l'imaginaire. Mais alors là, je vais bien être forcé de faire allusion à Henri Laborie. En essayant d'enlever, oui, pourquoi pas, en essayant d'enlever aux beaux fuites toute idée péjorative. Si le résultat des travaux de Laborie est exact, il semble que quand on a recours, en effet, à cette fuite dans l'imaginaire, c'est une manière d'abord de survivre, qu'on est atteint, d'une maladie qui va vous tuer, et que les cellules cherchent, en somme, le corps cherche à avoir une action, que cette action peut ne déboucher sur rien, et on arrivera à une inhibition totale qui va aboutir à la mort de l'homme, ou elle peut s'engager, en effet, dans une fuite dans l'imaginaire qui va permettre de prolonger la vie de l'être qui y a recours pendant un certain nombre d'années. Bon. Je ne peux pas dire, bon, je ne sais pas, bon, en effet, de quelle maladie je pouvais être atteint à 16-17 ans. Peut-être étais-je en effet condamné à mort et peut-être que j'ai pu survivre grâce à ce travail, à cette activité qui avait comme base l'imaginaire. C'est possible et c'est peut-être possible de tous les gens qui font ce métier. Mais je ne peux mettre que des gigantesques points d'interrogation devant tout ce que je vous dis. On va le savoir d'ici 10, 15, 20 ans. On va connaître mieux. On est en train de découvrir tous ces phénomènes et c'est assez passionnant. Pour l'instant, on n'est que devant des hypothèses. Mais des résultats de laboratoire sont extrêmement troublants.
C'est drôle.
Alors seulement, je récuse tout à fait votre idée de il y a la vie réelle et il y a l'irréel. Je veux dire que pour moi, l'imaginaire fait partie de la réalité.
Une des phrases, moi, qui m'a terriblement touché à la fin du texte de Toute la mémoire du monde, c'est cette phrase d'espoir. Enfin, à la fin de ce film très, dont on a dit qu'il était très concentrationnaire, que les livres étaient en prison, etc., etc., il y a
Bien sûr que ce n'était pas du tout notre idée en le tournant. Ça, c'est l'image qui, tout à coup, a donné cette idée. Mais je crois qu'on a complètement inversé le sens des choses. Parce qu'au contraire, la Bibliothèque nationale, c'est fait pour sauver les livres. Donc c'est tout à fait le contraire des camps de concentration qui sont faits, au contraire, pour détruire les hommes. Si chaque jour à la Bibliothèque nationale, en effet, on avait commencé par brûler les livres, ou si volontairement on essayait de ne pas les entretenir et de les laisser mourir de faim, en somme, c'est-à-dire d'humidité. Alors là, on pourrait faire la comparaison, mais on s'est contenté d'une comparaison visuelle qui n'avait aucune réalité, oui.
Non, d'autant qu'il y a cette phrase finale qui pèse aujourd'hui d'un poids considérable dans la mesure où on sent bien qu'elle est liée à une certaine période quand même historique et qu'il y avait dans votre esprit, dans celui des hommes de votre génération, sinon un optimisme, en tout cas une très grande détermination.
Oui, enfin, vous avez une bonne mémoire de vous souvenir de la fin du film. En effet, Oui, il y avait certainement, on vivait un peu avec cet espoir que la culture pouvait supprimer l'agressivité dans la nature humaine, bon, et que la violence pouvait être une conséquence de non-connaissance, je dirais. Est-ce qu'en 1980, on peut être aussi catégorique? Je ne sais pas. Enfin, c'était l'espoir, oui, à ce moment-là. Oui.
Mais dans la mesure où vous venez de cette génération, enfin, vous êtes
oui,
de cette génération,
vous avez tendance à... Bah oui, l'empreinte est faite.
Et ça, on le saura.
Elle est indélébile, oui.
On le saura.
On le saura, moi, je crois, oui.
Est-ce que vous pensez qu'un garçon de 28, 30 ans puisse dire la même chose, c'est ça quand même?
Ben, il faudrait lui poser la question, oui.
Bien, alors... Pour en venir à la violence et à l'agression, qui semble être une de vos hantises, enfin disons négative, une de vos peurs en tout cas, il semble bien que Nuit et brouillard et Hiroshima mon amour, pour prendre ces deux films, je vous parle de l'extérieur, hein, du point de vue de quelqu'un qui après coup, se rend compte que c'était ça qu'il fallait faire. Sur le moment, on a simplement aimé les films, on a été très bouleversés par les films. Mais après coup, avec le bon décalage de 20-30 ans aujourd'hui, on se rend compte que c'est ça qu'il fallait faire pour une raison qui nous paraît déterminante aujourd'hui, c'est quand on voit les autres films du cinéma français de l'époque et de voir la façon dont ils ont buté, y compris Prévert dans Les Amants de Vérone par exemple, dont Prévert a buté sur la façon de traiter de l'horreur, c'est-à-dire de ce qui s'était passé dans la Deuxième Guerre mondiale, tout compte fait. Et comment c'était difficile d'en parler autrement que par une révolte excessive ou un dégoût de soi-même, au bout du compte. Le dégoût de soi-même étant la conséquence aussi, c'est-à-dire le sentiment d'être soi-même coupable. De voir comment... Alors j'aimerais savoir comment l'idée vous est venue, mais pratiquement, précisément, de dire « Mais oui, ce qu'il faut filmer, c'est l'impossibilité de le filmer. »
Je crois que c'est venu à partir du moment où j'ai appliqué ma tête à résoudre le problème, c'est-à-dire comment faire un film sur le sujet qu'on me demandait.
C'est ça.
Sans doute qu'à chaque fois, j'ai senti qu'on ne pouvait que suggérer, en effet, cette horreur, et que si on, chaque fois qu'on montrait quelque chose de complètement réel sur l'écran, eh bien, l'horreur disparaissait. Donc, il fallait mettre en branle l'imagination du spectateur par tous les procédés possibles. Voilà. Il y avait, je crois me souvenir un petit peu de choses de genre. Ce sur quoi je ne peux pas répondre, c'est pourquoi est-ce que des producteurs m'ont demandé ce genre de film. Oui, voilà. Parce que, encore une fois, ça n'est pas moi qui ai décidé un matin de faire l'un ou l'autre de ces films.
Est-ce que c'est
Samy Alfon, Anatole Dauman, Jeff Lickchitz, bon, qui ont beaucoup insisté.
Mais est-ce que c'est pas mieux comme ça?
En tout cas, c'est comme ça. Ouais. Oui. C'est comme ça.
J'ai tendance à croire qu'il y a une authenticité du hasard nécessité. C'est-à-dire que moins il est, disons, élaboré consciemment, comme une thèse qui se développerait à partir... C'est cette espèce d'inversion des causes et des conséquences, de l'avant et de l'après, d'une nécessité qui apparaît après coup, comme nos décisions les plus graves de notre vie personnelle nous apparaissent après coup. C'est jamais avant.
Oui, bah oui, la perspective, en effet, ne peut se voir que si on est passé d'un point à un autre, ça c'est sûr.
Bien, alors, tout de même, vous m'aviez raconté un jour comment vous aviez rencontré Marguerite Duras pour Hiroshima. Or, je crois que là encore, il se passe quelque chose. Cette rencontre avec Marguerite Duras autour d'une tasse de thé et de l'impossibilité de faire ce film, et j'aimerais que vous vous le rappeliez quand même.
L'origine d'un film comme Hiroshima, mon amour, est en fin de compte très comique, parce que ça commence comme vraiment les pires coproductions internationales. À l'origine, il y a des yens bloqués à Tokyo qu'il faut utiliser. Donc il faut arriver à faire un film dans lequel il y a un élément japonais et un élément français. Bon, à partir de là, débrouillez-vous. Alors, comment ça s'est passé dans la pratique? Bon, ben, c'est que Anatole Dauman et Samy Alfon et Jacques Lipchitz, les trois dieux de Argos Film, m'ont demandé de faire un film sur la bombe atomique, ce qui paraissait en effet assez bien convenir à une coproduction japonaise. J'ai essayé de faire ce documentaire qui pouvait avoir une heure. Ils souhaitaient en effet qu'on dépasse le cadre de la demi-heure. J'ai commencé avec Chris Marker, mais qui a abandonné le projet, en effet, au bout d'une dizaine de jours. Il n'avait pas envie. Bon, en fin de compte, il s'est retiré de l'affaire. Bon, alors, Chris Marker m'a conseillé de travailler avec un de ses amis qui avait beaucoup vécu au Japon, Witold Zarzewski. Et au bout de quelques mois, un scénario, mais entièrement allégorique, donc, a été écrit, mais qui ne nous satisfaisait absolument pas, ni lui, ni moi, d'ailleurs. Donc, j'ai dit au producteur, écoutez, c'est très triste, mais je ne vois pas de moyen de faire un film sur la bombe atomique qui soit plus intéressant que la quinzaine de documentaires sur le sujet que vous m'avez projeté, justement, pour me documenter, tout particulièrement un documentaire japonais qui était tout à fait extraordinaire. Et j'ai dit donc, si vous voulez faire un film sur la bombe atomique, enfin si vous voulez stimuler l'imagination des gens sur le péril atomique, achetez ce documentaire et puis voilà, et diffusez-le. C'est ce qu'on peut faire de mieux. Nous, c'est complètement stupide de vouloir faire un documentaire de plus, puisque les autres ne sont pas sortis, ne sont pas diffusés. Consacrez vos efforts à diffuser les 3 ou 4 titres là que je vous apporte ce matin. Mais quant à moi, je suis obligé de me retirer du projet. Alors, ils étaient évidemment tous consternés, moi aussi, mais enfin, bon, c'est la vie. Et c'est là où la conversation s'est orientée en disant, bon, est-ce que vous n'auriez pas envie de travailler avec Françoise Sagan? Est-ce que ça vous séduirait? Alors, j'ai dit, bon, j'ai beaucoup de sympathie pour Françoise Sagan, que je ne connais pas, mais enfin, qui est quelqu'un de très sympathique. Si Françoise Sagan part avec moi au Japon, on peut bien voir ce qui nous arrivera, et puis on reviendra peut-être avec quelque chose. Alors, je crois qu'ils ont contacté Françoise Sagan. Je n'en suis pas sûr, mais enfin, je sais que oui, je crois que si, quand même. Françoise Sagan a dit non, c'est un sujet trop important pour moi. Je ne peux pas faire ça. Bon, donc, on s'est revus encore avec les producteurs. Et à ce moment-là, bon, c'est vrai que j'avais un petit peu en tête, je jouais avec l'idée. Un coup amusant, ce serait de tourner en 16 mm Moderato Cantabile de Marguerite Duras, qui est un livre qui venait de beaucoup me frapper, et peut-être de le montrer ensuite à Marguerite Duras pour voir ce qu'elle en pense, et ça l'amuserait sans doute. Bon oui, mais ça ne serait sans doute jamais réalisé, parce que ça demandait quand même des gros moyens, mais l'idée me trottait dans la tête. Bon, donc le nom de Marguerite Duras est sorti, puis associé en somme à celui de Françoise Sagan. Bon, il me parlait d'une écrivain, bon, je leur répondais une autre écrivain. Il n'y a pas eu de suite, mais une amie, Olga Wormser, qui avait travaillé avec nous sur Nuit et brouillard, était là. Elle connaissait Marguerite Duras, et elle lui a téléphoné en disant « René a prononcé votre nom, il vous appellera jamais, mais il aimerait vous rencontrer. » Marguerite Duras, toujours très généreuse et accueillante, a dit « Mais qu'à cela ne tienne, qui vienne demain à 2 heures, moi je serais ravi de connaître ce monsieur. » Alors, on m'a transmis l'invitation. J'ai évidemment pas refusé. Et le cœur battant, j'ai sonné chez Marguerite Duras. Et pendant toute l'après-midi, la conversation en effet a tourné sur les raisons pour lesquelles je ne faisais pas un film sur le péril atomique et sur la bombe atomique et pourquoi on ne pouvait pas le faire. Et au cours de cette conversation, je lui ai dit, mais vous voyez, c'est drôle, voilà, nous sommes ensemble depuis 3 ou 4 heures, et pendant ce temps-là, il y a des avions qui ont des bombes atomiques dans la carlingue et qui font le tour de la Terre perpétuellement. Donc notre planète et notre conversation est survolée par ces bombardiers qui sont prêts donc à lâcher de nouvelles bombes atomiques. Et cependant, nous n'avons pas changé terriblement notre comportement extérieur. En tout cas, nous sommes là en train de boire de la bière ou du thé et la journée se passe de la même manière. Alors au fond, est-ce que le film qu'il faudrait faire, ce n'est pas du tout celui qui était prévu, c'est-à-dire avec la bombe atomique au premier plan, mais au contraire, tourner une histoire d'amour, j'allais dire classique, dans lequel la bombe atomique serait dans le fond, comme ça, serait quelque chose qui serait derrière les personnages, au loin, comme ça, comme une espèce de paysage, quoi. Et alors on s'est quitté là-dessus, et c'est 2 ou 3 jours après où Marguerite Duras m'a téléphoné en me disant... je crois que j'ai une idée. J'ai enregistré au magnétophone une petite conversation entre une Française et un Japonais. Est-ce que vous voulez venir écouter ça? Et alors, je suis venu, et en effet, c'était une conversation entre un Japonais et une Française qui avait envie d'aller au restaurant, et la Française ne voulait pas manger de poisson cru parce que elle avait peur qu'il soit irradié, et le Japonais lui répondait qu'il y avait du danger ou qu'il n'y avait pas de danger, je ne me souviens pas. Mais enfin, je sais que ça a été le point de départ, et ensuite, bon ben, c'est devenu un film. Mais il n'y avait pas cette conversation sur le poisson, bien sûr.
Non, je crois que cette conversation en elle-même...
Je trouve que ce que je vous ai raconté a beaucoup de détails, mais enfin, je pense...
Non, je crois qu'au contraire, il fallait ces détails pour faire apparaître ce
le
qui...
Le nombre de hasards, en tout cas, ça, c'est voilà. Ça qui est... Donc, vous voyez, ça. Je veux dire, c'est...
Non, y compris les yens bloqués, enfin, ce qui est
oui, ce que je raconte, c'est que ça n'est pas parti, toujours la même chose. Un matin, on se réveille, on dit « Ah, je veux faire un film sur la bombe atomique ». Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe dans le cinéma, en tout cas. Peut-être pour certains metteurs en scène, mais ce sont leurs propres producteurs.
Mais
je crois que ces hasards sont amusants aussi. Enfin, je veux dire qu'il n'y a pas de raison de les mépriser, oui. D'abord parce que je pars du principe que les producteurs ne sont pas des imbéciles, quoi. Je veux dire, non, et que le producteur est une pièce maîtresse de l'entreprise film. Que ce qui est drôle dans un film, c'est en effet ce rassemblement d'énergie, de comédiens, de techniciens, de décorateurs, de producteurs, de stagiaires, d'assistants, de soleil ou de pluie, et que, bah oui, c'est cette combinaison de tellement de choses hétéroclites qui arrive à faire un film, mais que chacun de ces éléments a de l'importance.
C'est drôle ce que vous dites, parce que c'est l'endroit où vous rencontrez des gens comme Romer ou Godard, qui ont toujours dit l'importance, c'est la production, Romer est prêt.
Pourtant, on donne l'impression d'être totalement autonome.
Romer prétend que ce qui est important, c'est que le budget soit pensé. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en fonction
c'est plutôt plaisir, comme j'ai une grosse admiration pour Romer, donc je suis très
Godard,
content d'apprendre
et Godard
ça.
Et Godard dit que les choses qu'il amuse le plus, qu'il rendre le plus heureux dans ce métier, ce sont les conversations d'ordre financier avec des producteurs qui soient d'ailleurs la télévision ou l'INA ou et que là il a le sentiment de mordre sur du réel fiction, je comprends ça très bien, mais je comprends d'autant mieux maintenant à cause de la biologie historique, si on peut employer le mot, c'est-à-dire comment quelqu'un comme Donnemann arrive à un certain moment de l'histoire comme le levier organique de quelque chose qui... Enfin, comme le levain aussi, pourquoi pas, de quelque chose qui, nécessairement, au bout du compte, apparaît comme avoir été voulu.
On parle toujours des grands producteurs américains, Salberg, Goldwyn, Zanuck, Selnick, tout ça. Mais on parle jamais des producteurs français. Je crois qu'il y a un peu d'injustice. Des gens comme Rodenberger, Daumont, Froment, tout ça, sont des producteurs qui... Enfin, Dorfman, bien sûr... Enfin, je ne vais pas faire un palmarès, sont des producteurs qui ont un rôle très important, oui.
Bon, on va envisager maintenant la suite de votre œuvre, et puis on n'a pas tellement le temps. Mais enfin, je suis très content qu'on s'attarde sur certaines choses, de manière à bien faire apparaître comment jouent les mécanismes pour les autres films. Mais il y a une chose que vous m'avez dit au début de cet entretien, et puis que j'aimerais voir se vérifier à travers trois exemples, peut-être, qui seraient Marianne Bad, qui serait Muriel, et qui serait Mon oncle d'Amérique, c'est comment... un film se met à avoir, et c'est la suite de notre conversation, se met à avoir son existence quasi autonome.
Parce qu'il y a un phénomène, par exemple, qui est très... je dis souvent, justement, que dans une équipe de films, personne ne domine quelqu'un, que c'est le film qui nous domine tous, quoi. Mais en effet, il y a un phénomène qui irait dans le sens de cette hypothèse, c'est que, généralement, quand on commence à préparer un film... Il y a toujours un moment où ça craque, où le financement n'est pas trouvable et où tout s'arrête et où tout le monde se démobilise. Bon, et chacun part de son côté. Et puis, ça dure 10-15 jours. Et là, on a l'impression que le film continue, même dans un aspect comateux, en somme, à exister. Et sans raison réelle, en fin de compte, ça repart. Et tout à coup, le producteur retrouve son énergie, se lance dans le financement, et le financement se trouve au cours du tournage. Comme s'il n'y avait pas moyen de tuer complètement le film. Quelquefois, au contraire, on y arrive. Bon, je veux dire, j'ai eu un certain nombre de projets qui sont morts, en effet, avant tournage. Mais c'est très bizarre. Je veux dire, ça n'est jamais une ligne continue. Il y a toujours un moment où le film tombe malade avant tournage. Et on a l'impression qu'il ne pourra jamais se rétablir. Et puis, il se rétablit de lui-même sans que personne fasse pression sur qui que ce soit pour que ça reparte. Ça repart tout seul.
Mais c'est drôle parce que ce que vous dites là m'amène à penser à une hypothèse un peu invraisemblable, mais qui, après tout, est peut-être juste. C'est que Oui, mais alors là, c'est terrible de dire ça, parce que c'est parler d'une sélection naturelle. C'est un dangereux chemin. Mais on se demande si, après tout, Chaplin avait eu l'occasion de faire son Napoléon ou son Christ, si ça aurait pas été une erreur absolument monumentale. Enfin, si finalement ça, les choses qui lui ont été interdites, peut-être ne pouvaient pas naître. Enfin,
c'est une hypothèse consolante. On a l'impression que si on applique ça à regarder Orson Welles, des films d'Orson Welles nous manquent et qui auraient dû être tournés. Bon, alors donc, je crois pas qu'on puisse vérifier ça à 100%. Mais ce qui est troublant, c'est que, par exemple, quand on a appris en 1943-44 que William Wyler avait fondé sa propre maison de production avec Capra, je pense, que c'était Liberty Films, et il y avait un troisième metteur en scène, enfin, et que tout à coup, ils allaient avoir pleine liberté. Bon, la première idée qui nous est venue, nous spectateurs, c'est de dire, bon, maintenant, les films de Wyler et de Capra vont complètement changer de ton. Non. En effet, les films de Wyler et de Capra produits en toute liberté ont été les mêmes que ceux qui produisaient avant. J'ai pas ça. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il n'y a pas eu de différence dans leur production. Alors ça, c'est très étonnant, puisqu'on avait l'impression qu'ils étaient des esclaves opprimés. Non, ça va l'air d'être donc sur d'autres plans, en tout cas, que ceux du film lui-même. Peut-être qu'ils se sont sentis plus à l'aise sur les conditions de production, c'est possible, mais sur le sujet lui-même, ou sur le montage, ou les comédiens, on n'a pas vu de différence, non.
Et pour ce qui est de l'esprit du film, et la façon dont le film commande vos gestes, et pas seulement les vôtres, il y a toujours une question. C'est qui est juge de cet esprit ?
Oui, c'est ça. Qui décide en dernier recours ? Comme j'ai l'impression qu'on travaille toujours dans un espèce d'accord mutuel, quoi, c'est ça. J'arrive pas à bien répondre à ça, parce qu'en effet, pourquoi est-ce qu'avec le monteur, c'est presque toujours la même prise qu'on choisit ? Pourquoi est-ce que, quand il y a une discussion sur l'endroit de la colure, en fin de compte, ça se termine toujours par un accord qui n'est pas un compromis, c'est ça. Et comme s'il y avait en effet une espèce de vérité du film,
magique.
Moi je veux bien, parce que de toute façon le cinéma, il y a quelque chose de magique, on sent bien, parce que qu'est-ce qu'on cherche, c'est bien à hypnotiser le spectateur et à essayer de l'empêcher de voir toutes les erreurs qu'on commet à chaque seconde dans la réalisation. Bon, il y a un côté prestigitation dans tout ça, sûrement.
Le film sur lequel vous l'avez le plus dit, c'est Marianne Bad, je pense. Film vous conduisait.
Ah oui, oui, oui. Là, c'était très, très surprenant. D'abord parce que, en tournant, on aurait pu penser qu'on faisait un film léger ou de divertissement. Et les principaux membres de l'équipe, en tout cas, et des comédiens et des techniciens, on avait un petit peu parfois peur. Comme si on avait l'impression de toucher à quelque chose de grave, de quelque chose qui était au-delà de notre compréhension, mais qu'on était obligé absolument de respecter. Et comme si Alain Robbe-Grillet et nous tous, nous n'étions jamais que des espèces de médiums.
C'est ça.
Qui retransmettaient un message qu'on ne pouvait pas complètement décoder, mais qui était, en fin de compte, très clair, et ça s'est vérifié au montage, où la première idée, c'était évidemment que ce type de film, on pouvait trouver 30 solutions de montage. Eh ben non, pas du tout. Le film avec Henri Colpi s'est monté très très rapidement, et on est arrivé. Il n'y avait vraiment qu'une seule solution, quoi. Ça nous a beaucoup étonnés. Oui.
Vous avez eu le sentiment du danger, comme dans ces...
Oui, comme si on touchait à ces
expériences surréalistes.
Oui, comme si on touchait à un domaine dangereux. Alors je ne sais pas ce que... Même maintenant, je ne peux pas l'analyser, quoi.
Puisqu'il s'agissait de la passion, selon vous, Marianne Bat, il s'agissait de la passion. Est-ce que vous-même, vous étiez dans un état où vous aviez connu, où vous pensiez à quelque chose de votre vie personnelle, où l'idée même de la passion se soit trouvée ?
De toute façon, chaque film utilise toujours, de même que les comédiens utilisent toujours leur vie personnelle pour jouer, le metteur en scène fait la même chose, ça c'est sûr. Simplement, ça n'est jamais linéaire, bien entendu.
Absolument.
Ça n'est jamais... Et ça n'est jamais un problème d'identification. Ça n'est pas, c'est le contraire même d'une confession. Parce que, puisqu'on est toujours en dehors du... Mais bien entendu, on pourrait pas tourner. On pourrait, si on n'avait pas des équivalents dans sa vie personnelle, dans tout ce qu'on fait, oui.
Alors maintenant, pour mon oncle d'Amérique, c'est drôle que les gens aient parlé de comédie.
Non, enfin, pour moi, c'est pas drôle, puisque... J'ai toujours envisagé le film sous cet angle. J'ai toujours dit qu'on faisait une comédie biologique où, dès que le film de Jean Gruau là, s'est ébauché, c'est bien cet aspect-là qu'on a voulu conserver. Oui. Pas en disant il faut que ce soit drôle ou des choses comme ça, mais enfin, on cherchait le sourire, c'est sûr.
Mais est-ce que vous l'avez cherché ? Enfin, est-ce que vous l'aviez déjà eu le ? Est-ce que vous avez justement des projets auparavant ? Impliquant l'humour, encore qu'il y ait de l'humour dans Marianne Bad, certainement.
Oui,
certainement.
Là, c'est peut-être un humour au second degré, mais surtout dans le début. Le film commence d'une manière que quand, par hasard, j'entends les spectateurs rire, dans les 20 premières minutes, je suis très content, parce que les répliques d'Alain Robbe-Grillet ont été très consciemment écrites pour faire rire. Et ça n'est que petit à petit que l'angoisse doit naître.
C'est ça. Enfin, on ne peut pas dire que Marianne Bad soit une comédie.
Non.
Il y a une rêverie impliquant de l'humour, mais on ne peut pas dire que Marianne Bad soit une comédie. Est-ce que l'envie de la comédie, enfin, ou d'une comédie, vous est venue auparavant, dans les années 60 ou 70 ?
On a toujours envie que ce soit un peu... Je sais pas, un peu le ton de la comédie est quand même un ton que j'ai toujours un peu cherché, que ce soit dans Je t'aime, par exemple. Je ne dis pas que j'ai réussi, mais enfin, c'était ce que je voulais, oui. Donc, pour moi, ce n'est pas complètement nouveau, non ?
Pour vous, non. Mais pour les spectateurs qui vont voir Mon oncle d'Amérique, qui peuvent être complètement dissuadés par le fait qu'il s'agit d'un film autour de la pensée, enfin, pour quelqu'un qui ne le sait pas, enfin, qui ne sait rien du film, et on lui dit, tu vas voir Laborie, qui est un biologiste, et puis l'histoire, c'est en fonction de ce qu'il dit, etc. Alors bon, on peut penser que le spectateur va craindre le pire, mais pas du tout, au contraire, il est attiré, on l'a bien vu, l'oncle d'Amérique est un vrai succès commercial, populaire, enfin, en tout cas commercial. Donc, ce que je voulais dire, c'est que les gens ont senti qu'ils allaient s'amuser, bon, qu'ils allaient avoir une véritable stimulation, moi je dis intellectuelle, morale, spirituelle, enfin, mais... En tout cas, eux l'ont senti, on sent bien quand on est dans la salle, à quel point les gens, surtout par rapport au cinéma qu'ils voient par ailleurs, où il s'agit d'illustrations plus ou moins à droite d'un certain freudisme ou d'un certain freudo-marxisme, là, brusquement, ils se trouvent ailleurs, confrontés à leur vie quotidienne, dans un esprit complètement neuf. Alors, par ailleurs... J'ai bien senti des non-sens ou des contresens absolus dans la façon dont le film était... D'abord, comme tous les films très stimulants, il fait beaucoup parler. Bon, ça, c'est une des caractéristiques de votre œuvre, c'est à quel point vos films font parler. Mais je trouve que c'est plutôt à leur crédit qu'il faut porter la chose. Encore que vous, ça doit vous agacer, finalement, cette prose et cette parole libérée par vos films. En tout cas, Mon oncle d'Amérique a fait beaucoup parler, et en particulier... Pour les détracteurs, la scène, voilà, prenons un exemple précis, parce que là, la scène où, brusquement, les personnages se mettent à porter des têtes de rats blancs à la place des rats du laboratoire de Laborie, et où certaines personnes disent, mais enfin, ils se fichent de nous, où l'humour n'est pas du tout ressenti là, à ce moment-là, comme de l'humour. Alors que pour moi, il est complètement évident qu'il y a à ce moment-là une auto-dérision, enfin une auto-ironie des auteurs par rapport à eux-mêmes, et même Jean Gruau dans cette émission a dit ce qui est merveilleux avec René, c'est qu'on lui propose une chose comme ça, et qu'au lieu de dire mais non, tu es fou, il dit mais oui, pourquoi pas.
Oui, c'est même curieux en effet à quel point sur ce plan de 10 secondes, l'attention des spectateurs a pu se polariser. Ça, évidemment, je ne l'avais pas du tout prévu. Certaines personnes m'ont dit non, ce qui est en effet pas possible dans ce film, c'est qu'il est trop didactique, et notamment au moment où vous mettez des têtes de rat aux personnages. Alors vraiment, on a compris sans ça. Bon, évidemment, ce n'était pas du tout mon intention. Si ce plan existe, c'est d'abord parce que, oui, je l'ai trouvé joli, que ça faisait un peu comme un collage de Max Ernst, bien sûr, on va retrouver des filiations. Mais c'est aussi parce que c'était une manière pour nous de dire, attention, on est au cinéma, j'essaie pas de vous raconter des bobards, on ne va pas en deux heures de temps, et surtout en 12 à 15 minutes d'exposé, de Henri Laborie prétendent traiter complètement de la condition humaine. Et pour vous montrer à quel point on est conscient de nos limites, vous voyez qu'on n'hésite pas à s'amuser nous-mêmes. Alors généralement, quand même, le plan fait rire, et je crois qu'il est bien compris. Mais il y a aussi des réactions complètement opposées, c'est vrai.
Oui, y compris des gens qui admirent le plus le film. Enfin, y compris des gens qui admirent énormément.
Là, tout à coup,
alors que pour moi,
le rire ne se déclenche pas.
Alors que pour moi, il s'agit de l'endroit où, personnellement, j'adhère complètement. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là que je découvre qu'il ne s'agit pas seulement de dire des choses, mais en même temps de réfléchir sur la manière de les dire. Et que le film... Tout le film, tout du long, est fait là-dessus. C'est-à-dire, il est fait autant sur le dire que sur le vouloir dire.
Oui, parce que tout le temps, en effet, il me semble que, même quand Laborie parle, c'est toujours sur le ton, justement, de l'hypothèse et du point d'interrogation jeté devant le spectateur, enfin, pour l'inciter, en somme, à lui-même nous aider à trouver les solutions, oui.
Alors, une des dernières questions, c'est votre collaboration avec Jean Gréau, qui est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration et même d'amitié, et dont je trouve qu'on ne parle jamais assez. C'est à quel point... Alors là, il s'agit d'une collaboration, et on le sent bien en voyant le film, à quel point vous avez été libre chacun de votre côté au service du même film. C'est ça que je trouve tout à fait étrange, et que je vous sens terriblement vous dans ce film. Je ne saurais pas dire comment, d'ailleurs. Enfin, je vous sens... de la même façon que je vous sens marchant, parlant, vivant, votre calme, votre réserve, votre humour très, très secret, votre envie que les choses soient magiquement nettes, enfin, précises, aiguës. Et je sens aussi, sans que ce soit du tout contradictoire, l'auto-dérision, d'une certaine façon, de Jean Gréau, qui lui-même a été un campagnard, qui a été tenté par le communisme, qui a été tenté par le christianisme, un peu comme le personnage de Depardieu, qui lui doit sans doute beaucoup. Et de voir à quel point vous êtes incroyablement libre l'un par rapport à l'autre, de telle sorte que le ton même du film... reflète un peu de votre bonne humeur, enfin, en dehors même de votre humour, enfin, de votre bonne humeur de collaboration. Est-ce que je me trompe ou pas ?
Vous ne vous trompez pas, mais on peut dire quand même que ça se passe toujours comme ça. Je veux dire que s'il n'y avait pas cette bonne humeur entre le scénariste et le metteur en scène, on n'arriverait pas à supporter le travail que demande l'élaboration d'un scénario, parce que c'est généralement très long, très difficile. Enfin, je veux dire, il faut énormément de patience. Donc il faut que les jours où ça ne vient pas, les jours où ça se passe mal, on puisse presque parler d'autre chose et être content d'être ensemble. Il ne m'est jamais arrivé de faire un film avec un scénariste avec qui je ne sois pas heureux de passer la journée, même si on ne parle pas du film. C'est pour moi une condition sine qua non, en effet, de... Je ne dis pas de la réussite du film, mais simplement d'arriver au bout du scénario. Si on n'était pas heureux au bout d'une semaine de travail, on se quitterait tout de suite, oui. Ça, c'est clair. Alors, j'ai été très heureux avec Jean Gréau, bien sûr.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 27 juillet 1980.